Je ne sais pas si vous êtes venue en vélo, Agnès Sinaï. En tout cas, vous êtes enseignante à Sciences Po Paris, journaliste et fondatrice de l'Institut Momentum. Vous avez également dirigé l'ouvrage Penser la décroissance politique de l'Anthropocène, édité aux presses de Sciences Po. À côté de vous, Christian Depertuis. Bonjour, vous êtes professeur
Bonjour.
associé d'économie et fondateur de la chaire Économie du climat à l'Université Paris-Dauphine. Avec tout d'abord un point, peut-être, Agnès Sinaï, sur le rôle de ce sommet. À quoi sert-il? Et qu'est-ce que l'on peut en attendre?
C'est avant tout un sommet symbolique, puisqu'organisé 2 ans, jour pour jour, après l'adoption de l'accord de Paris sur le climat au Bourget le 12 décembre 2015. Donc Emmanuel Macron a voulu marquer le leadership français sur cette question climatique, et ce d'autant plus que entre-temps, il y a eu le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, et que c'est une manière de maintenir le momentum sur le sujet. Quelques semaines après la 23e conférence des partis sur le changement climatique qui a eu lieu en Allemagne, bon, l'enjeu, mais finalement, c'est plutôt une opération de com, à mon avis, même si certaines annonces pourraient en sortir cet après-midi, que une véritable négociation politique, puisque ça dure une journée, il y a 50 chefs d'État. Voilà, c'est
donc
plutôt
pas grand-chose.
Donc
la
pas
réponse
grand-chose.
À que peut-on en attendre?
Pas
Christian
grand-chose.
de Pertuis, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que ce sommet est effectivement assez ambigu. Bon. Parce que personne ne sait très bien quel est l'ordre du jour. Jusqu'au dernier moment, on ne sait pas très bien qui vient. Et on voit effectivement que beaucoup d'acteurs ont des soucis de communication et de réputation, notamment les acteurs financiers. Bon.
Qui sont les acteurs financiers?
Les acteurs financiers, vous avez... je sais pas, quand vous avez un distributeur de billets, derrière il y a une banque. Derrière, il y a un établissement financier. Hein, bon, quand vous avez besoin d'un crédit, vous avez... Donc c'est ça les acteurs financiers, c'est les banques, les compagnies d'assurance, et puis quelques acteurs...
Mais en quoi ont-ils un problème de réputation ici avec...
C'est ce qu'on appelle la finance verte. Hein, et donc on voit bien qu'aujourd'hui, par rapport à la transition énergétique, il y a un petit problème lorsque les établissements financiers, ils savent très bien financer l'extraction du pétrole, le transport du gaz, mais est-ce qu'ils savent bien financer les systèmes énergétiques de demain bas carbone? Peut-être pas. Donc je pense que, pour revenir à votre question, ce sommet est ambigu. Mmh. Il se tient moins d'un mois après la COP23 à Bonn, dans laquelle la négociation entre gouvernements n'a pas beaucoup avancé. Il se tient 2 ans après le sommet de Paris, qui a été un très grand sommet diplomatique, mais qui crée un cadre de négociation dans lequel il n'y a pas d'objectif contraignant. Et donc je pense que cette ambiguïté, si vous voulez, elle est grande. Et moi je compare la situation de la négociation climatique à celle de la négociation sur la couche d'ozone. Cette année, on a fêté les 30 ans du protocole de Montréal, qui a permis d'éradiquer les substances nocives sur la couche d'ozone. On n'a pas fait de grands sommets, pourquoi? Parce que le dispositif des Nations Unies fonctionne. Et ce dispositif, effectivement, il a permis de sortir assez rapidement tous les gaz nocifs pour la couche d'ozone. Et aujourd'hui, on ne s'inquiète beaucoup moins de la couche d'ozone. Donc je crois que le fait qu'on multiplie les sommets climatiques n'est pas du tout un signe que la négociation climatique va bien et que le climat est sous contrôle. C'est plutôt l'inverse. Plus on fait des sommets climatiques médiatisés, moins la négociation climatique fonctionne bien.
Agnès Sinaï, si on ne l'a pas fait pour que ce soit efficace, on l'a fait pourquoi ce sommet? Uniquement pour des raisons de politique intérieure à la France? Est-ce qu'Emmanuel Macron voulait, c'est ce que semble dire Libération aujourd'hui, montrer qu'il était devenu écolo malgré lui? C'est le titre de Libé ce matin en présentant Emmanuel Macron à la une sur un vélo.
Je pense qu'Emmanuel Macron a un tropisme financier et qu'il est proche du milieu financier. Il a une pratique en tant que banquier et il pense qu'en orientant la finance vers des investissements verts, le changement climatique va pouvoir être endigué par des investissements dans la transition dite énergétique, écologique. Et c'est ce point-là, moi, qui me semble le plus inquiétant, parce que comment finalement imaginez que cette finance qui représente 17 000 milliards de dollars d'actifs par an, qui s'échangent à haute fréquence sur les marchés et qui est finalement à l'origine en partie de la destruction de la planète, puisqu'il faut des retours sur investissement, il faut de la croissance, il faut toujours plus. Donc comment les acteurs de cette logique financière démesurée et hors sol peuvent tout d'un coup s'intéresser aux questions écologiques?
Alors le Figaro pense que l'écologie peut être une bonne affaire, c'est même l'éditorial du Figaro aujourd'hui. Le verdissement, je cite Gaëtan de Capelle, le verdissement de l'économie gagne du terrain. Il explique donc Gaëtan de Capelle que finalement ces investissements sont aujourd'hui des investissements extrêmement productifs. Vous faites non de la tête.
Déjà, ces investissements verts, ils représentent même pas une goutte d'eau dans un océan. Hein. Par exemple, les obligations dites vertes, les green bonds, représentent 130 milliards de dollars en 2017, soit 0,1% du marché obligataire. Bon, c'est très marginal au milieu d'une logique générale qui est quand même celle de l'investissement dans les énergies fossiles, même s'il y a des annonces ici et là de Paribas ou des actionnaires d'Exxon qui veulent qu'Exxon mette en place une politique de limitation de la hausse de la température planétaire. Mais enfin, on a l'impression d'un emplâtre sur une jambe de bois. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent là-dedans. Ce qui serait cohérent, ce serait d'adosser la monnaie européenne, par exemple, aux limites écologiques de la planète. Que la monnaie rende compte des limites écologiques, par exemple.
C'est-à-dire comment pratiquement pourrait-on s'y prendre, Agnès Sinaï?
Ben, on émettrait, il y aurait un bureau de sages qui quantifierait la valeur des écosystèmes, même si personnellement je me méfie beaucoup de cette monétarisation des écosystèmes, et c'est pas vraiment l'idée que j'ai en tête là en vous parlant de la monnaie, mais c'est une proposition qu'on a développée dans un de nos ouvrages à l'Institut Momentum, d'adosser la monnaie sur les limites écologiques par...
Mais c'est-à-dire l'euro perdrait de la valeur si, par exemple, voilà. L'Europe polluait ?
Exactement.
Je ne suis pas sûr que les milieux financiers vous suivent sur une proposition de cette nature.
Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de reprendre la main sur la création monétaire et de l'orienter vers des investissements verts et aussi... d'éliminer la logique de la dette qui est aujourd'hui la principale manière de produire de la monnaie.
C'est-à-dire, ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, la logique productiviste qui est à l'œuvre est une logique qui, de toute façon, ne peut pas être conciliable avec les intérêts de la planète.
Exactement.
Christian de Pertuis, est-ce qu'il y a une solution, malgré tout, une possibilité de réconcilier ces deux intérêts qui sont présentés comme divergents par Agnès Sinaï à côté de vous?
Alors, moi, je pense que ce que Agnès Sinaï nous dit, et c'est très juste, c'est que aujourd'hui, la création monétaire est assise sur la dette financière, et il y a une grande dette écologique qui se creuse avec le changement climatique, avec la destruction des écosystèmes, avec le problème de l'eau, et que cette dette écologique, elle n'est pas intégrée dans les flux financiers. Donc là sur le constat, je suis absolument d'accord. Sur les solutions, je pense que pour arriver à passer du système financier actuel au système financier qui respecte la dette écologique, il y a des étapes. Et moi, je pense qu'il y a trois enjeux majeurs derrière le sommet d'aujourd'hui. Hein. Enjeu numéro un, la valeur du climat, elle se mesure par le prix du CO2, hein, c'est-à-dire le coût des dommages climatiques associés aux émissions de CO2. Donc, je pense que tant que dans l'économie réelle, il n'y a pas un vrai prix du CO2 qui exprime le coût du changement climatique dans l'économie, on n'a pas les bons prix. Et donc, la finance derrière, elle travaille avec les prix qu'il y a dans l'économie réelle. Donc ça, c'est le premier enjeu. J'espère qu'il y aura effectivement dans la journée des annonces sérieuses de la part des gouvernements et d'une autre, si possible, qui permettent notamment d'améliorer la perspective sur le prix du CO2 en Europe. Il y a un deuxième point très important, c'est la régulation financière par les banques centrales. Il y a des règles prudentielles qui encadre le fonctionnement des établissements de crédit et des compagnies d'assurance. Ces règles prudentielles, aujourd'hui, elles ne tiennent pas compte de l'écologie. Donc je pense que si on était capable d'introduire dans les règles prudentielles utilisées par les banques centrales pour orienter et contrôler les établissements financiers, là, on peut effectivement faire un vrai pas, faire la finance verte et aller au-delà de ce qui est aujourd'hui un pur procédé de labellisation. Quand on met des green bonds, on met des labels, on s'auto-déclare avoir verdi la finance, sans que du reste les méthodologies soient très claires. Mais il faut donc que ça vienne de l'extérieur par les règles prudentielles imposées par les banques centrales. Et puis, il y a un troisième levier très important, c'est les financements publics. Moi, je ne crois pas que... je crois qu'une grande partie de la transition écologique doit être financée effectivement par les entreprises et par les établissements financiers, mais il y a besoin aussi d'argent public. Et donc, ce que j'attends aujourd'hui du One Planet Summit, comme on l'appelle, pas pour qu'on l'appelle comme ça en anglais, du reste, enfin bon. Ce que j'attends, c'est qu'il y ait des engagements réels, consistants, matériels, de la part des acteurs publics, des États ou de leurs agences financières, par exemple les agences de développement, par exemple la Caisse des dépôts en France, pour concrètement accroître les financements vers le bas carbone.
Alors, on entend un peu vos deux logiques. Il y a une logique qui consiste à dire qu'il faut réintroduire, comme disent les économistes, les externalités. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute une série de coûts cachés à la pollution. Et comme les entreprises, la finance ne les paye pas, eh bien, ils en usent et en abusent. Alors, on pourrait, par exemple, privatiser un certain nombre de choses. On est allé très loin dans ces propositions. Privatiser l'air, par exemple, pour faire en sorte qu'il y ait un organisme de contrôle. Et la deuxième logique consiste à opérer un retour vers le politique, c'est par exemple ce que vous préconisiez, Agnès Sinaï, tout à l'heure par le biais de la monnaie. Et quels sont donc, dans ce contexte-là, par rapport à ce que Christiane Pertuis vient de dire, vos constats et les possibilités qui nous sont offertes aujourd'hui?
Je pense qu'on a un immense besoin de cohérence et que jusqu'à présent, les négociations climatiques ne sont pas animées par une cohérence. Voilà, on nous parle de neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est la possibilité d'enfouir du CO2 sous la terre. C'est la possibilité de planter des forêts immenses sans le consentement des populations qui habitent ces forêts. C'est des tours de passe-passe qui veulent concrètement pas dire grand-chose et qui ne changent rien, encore une fois, à la logique productiviste qui est à l'origine du désastre climatique et écologique en cours. Donc cet immense besoin de cohérence, c'est effectivement au pouvoir public de le mettre en œuvre. Par exemple, il y a les états généraux des transports en ce moment. Mmh. On attend une décision sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il y a un projet de centre de loisirs au nord de Paris, dans le Val-d'Oise, à Gonesse. Il y a sur le plateau de Saclay, qui est en cours de construction sur les terres les plus fertiles d'Île-de-France, un immense chantier dans un no man's land. Bon, la cohérence, ce serait peut-être déjà de commencer par mettre les choses en ordre chez soi, hein, et d'une part en encourageant une mobilité totalement différente et pas du tout automobile, parce que je pense qu'on va pas s'en sortir avec 2 milliards de voitures électriques sur la planète parce qu'il y aura pas assez de cobalt, il y aura pas assez de lithium, il y aura tout simplement pas assez d'espace pour accueillir ces véhicules, même électriques. Donc on est dans un certain nombre d'illusions aujourd'hui qui sont aussi entretenues par ces négociations climatiques et auxquelles succombent aussi nos gouvernants. Et on aimerait qu'ils prennent leurs responsabilités en produisant un discours cohérent.
Mais alors, le prix politique est assez lourd parce que je lisais hier un sondage sur les dirigeants en France qui étaient les plus critiqués. Anne Hidalgo était à la première place de ce classement, peut-être probablement pour sa politique donc liée aux voitures à Paris. Et on se dit que si un maire paye aussi cher une politique centrée donc sur une autre forme de mobilité, bah, il va y avoir peu d'autres hommes politiques à suivre cette mesure-là parce qu'ils se rendront compte que politiquement, cela pourrait être désastreux. Qu'est-ce que vous en pensez, Agnès Sinaï?
Moi, je pense l'inverse. Je vois que Anne Hidalgo préside le réseau C40, donc de villes qui veulent développer leur résilience, qui mettent en place des politiques climatiques, qui anticipent les catastrophes à venir et qui essayent de s'en prémunir. Donc, elle n'est pas toute seule. Elle est adossée à ce réseau qui est très fort, qui est en partie d'ailleurs financé par Michael Bloomberg, qu'on va retrouver cet après-midi au One Planet Summit.
Qui est donc le maire de New York.
L'ancien maire de New York et puis un milliardaire, donc lui aussi à la charnière de la finance et de la politique. Hein, c'est dans l'air du temps, apparemment. Donc je pense que Anne Hidalgo est très courageuse et qu'à la fois elle essuie une salve et en même temps elle est potentiellement très populaire.
Donc c'est un modèle qui, pour vous, est un modèle à suivre.
Totalement.
On continue à évoquer ce One Planet Summit aux environs de 8h20. On continuera à évoquer les enjeux de ce sommet et voir comment des entreprises peuvent ou non faire changer la donne. Et puis plus généralement, voir comment la question du réchauffement climatique se pose aujourd'hui, alors même que Donald Trump, Vladimir Poutine sont très peu coopératifs à l'échelle internationale. Qu'est-ce que les peuples veulent faire s'ils souhaitent véritablement changer la donne en la matière? On vous retrouve Agnès Sinaï et Christian de Pertuis. Dans quelques minutes, il est 8h sur France Culture.